Alors, Madame Leïla Darli, mon invitée d'aujourd'hui, me subit depuis le début de sa carrière académique, puisqu'elle a été mon étudiante à l'INALCO il y a un certain temps, et ensuite je l'ai vue passer les étapes successives du cursus honorum de l'Académie, et en particulier, j'ai eu la chance de l'avoir comme collaboratrice à ma chaire pendant 3 ou 4 ans, ici, au Collège de France. Alors, elle s'est d'abord intéressée à de l'histoire culturelle, au sens un peu politique du terme, puisqu'elle avait fait sa thèse sur la génération de 1908, c'est-à-dire les jeunes intellectuels arabes du Proche-Orient qui commencent leur carrière au moment de la révolution de jeunes turcs de 1908 et qui sont, elle les poursuit jusqu'en 1938, à la veille de la guerre, donc une analyse en termes de génération, chose qui n'a pas été refaite depuis et qui est bien dommage, ça fait partie des choses qui nous manquent pour la connaissance des sociétés arabes. Et puis, Madame Darli a depuis de multiples sujets d'intérêt. Elle s'est beaucoup intéressée au journalisme, à la traduction. Vous l'avez aussi peut-être connue parce qu'à une époque, elle avait une tribune sur France Culture et une autre dans Libération. Voilà. Et donc actuellement, elle est à la CNRS et au centre Marc Bloch à Berlin, si je ne m'abuse. Et elle va nous faire une conférence d'histoire culturelle sur quelque chose dont nous connaissons évidemment l'existence, mais qu'on n'a jamais vraiment travaillé, qui sont les histoires des imprimeries dans le monde arabe, étant donné que les premières imprimeries dans le monde arabe, si on fait abstraction des quelques imprimeries dans des couvents libanais, n'apparaissent qu'aux aux alentours des années 1820 pour l'imprimerie de Boulak en Égypte. Et donc, ces imprimeries ont été si très liées aux activités missionnaires catholiques et protestantes, puisque ça faisait partie de la propagande au sens originaire du terme. Propagande signifie tout simplement au départ diffusion. Et donc là, elle va nous traiter d'une imprimerie pour laquelle je n'avais jamais vu jusqu'ici d'étude, qui est celle de... Vas-y.
L'imprimerie de la Custode, donc de l'imprimerie franciscaine de Jérusalem.
Voilà, donc Leïla, je te cède la parole.
Vous m'entendez? Oui, tout va bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très honorée et très enchantée d'être là. En effet, il y a un peu plus de monde que du temps où j'étais là à chaque fois. Je vais vous parler en fait de l'imprimerie de la Custode de Jérusalem entre 1846 et les années 20. Et il s'agira non pas d'écrire l'imprimerie, mais de travailler sur la question des langues, hein, dont Henri a mentionné que c'était une de mes obsessions. Et donc c'est intitulé « Les langues entre pouvoir local et politique globale, l'imprimerie de la Custode de Jérusalem ». Donc ce travail, je dois le mentionner, a été fait dans le cadre d'une enquête plus vaste sur laquelle je travaille en ce moment et que j'intitule « Les langues de la modernité arabe ». C'est aussi le résultat d'un séjour aux archives de la Custode de Jérusalem effectué dans le cadre du programme de recherche mené par Vincent Lemire, Open Jérusalem. Alors j'ai pensé qu'il s'inscrivait très directement dans le thème de séminaire, même si apparemment il n'y a pas particulièrement d'accroche avec le très contemporain. Mais on verra, ce n'est qu'une apparence. Donc, la typographie à Terra Santa est un lieu méconnu de l'histoire du livre et de l'écrit à Jérusalem, en Palestine et dans l'ensemble du Proche-Orient moderne. Elle a été fondée en 1847, au moment où le Vatican réaffirme sa présence dans la région en rétablissant un patriarcat latin à Jérusalem par la lettre apostolique du pape Pie IX, Nulla Celebrior, du juillet 1847. Elle est conçue à ce moment-là comme un élément de la politique de reconquête des chrétiens d'Orient. Cette décennie marque ce que Henri Laurence, à mes côtés, appelle fort justement la redécouverte de la Terre Sainte, à la fois par les puissances européennes et par les hiérarchies religieuses. au sein donc d'un dispositif qui met la propaganda fide, la propagande, au centre, aussi bien à Jérusalem qu'en d'autres capitales de la région comme Beyrouth, où les missionnaires jésuites installent leur collège, puis leur bibliothèque et leur imprimerie en 1853, ou au Caire, où les dominicains, un peu plus tard, prennent le terrain de la mission intellectuelle. L'imprimerie franciscaine de Jérusalem joue dès le milieu du XIXe siècle un rôle fondamental de diffusion et de sensibilisation. Ce travail que je vais essayer d'écrire s'accomplit sur différents niveaux. D'abord, l'enseignement et son accompagnement pédagogique. L'imprimerie fabrique et distribue du matériel scolaire, des manuels et des outils d'apprentissage pour les écoles installées dans tout le Proche-Orient. Les franciscains s'insèrent ainsi dans une course très fortement concurrentielle pour installer des établissements d'enseignement sur le territoire des provinces arabes de l'Empire ottoman. Alors que, dans le même temps, l'Empire lui-même ouvre ses établissements d'État conformément à l'esprit des Tanzimat, grandes réformes. Dans un deuxième temps, deuxième mission, l'accompagnement des catholiques en Terre Sainte, notamment par la publication et la diffusion de guides pour les pèlerins et de matériel de messe pour les églises locales. Et enfin, c'est sur ce troisième travail que je m'étendrai plus, un travail particulier s'opère sur les langues et entre les langues. L'imprimerie devient progressivement un centre de traduction et de diffusion du matériel religieux et profane traduit vers l'arabe, prenant acte de la nécessité de faire une place importante à cette langue, devenue la langue d'expression principale des chrétiens dans la région, et remplaçant peu à peu les langues cultuelles. Cette place, que je vais essayer de décrire, est néanmoins différente de celle qu'occupe par exemple l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, où elle est le pivot d'une élaboration d'une Nahda chrétienne, notamment par les travaux du père Louis Chéreau ou par l'école orientaliste, fondée autour de la faculté et de la bibliothèque orientale, ainsi que de la revue des pères jésuites, Al-Mashreq. À Jérusalem, c'est tout autre chose. L'imprimerie se tourne moins vers les sciences et le travail intellectuel que vers la ville elle-même, ses activités quotidiennes, notamment en multipliant les travaux de papeterie et de fourniture de petits matériaux, je reviendrai là-dessus, ou la politique qui s'y joue, entre les différentes églises et confessions, ou entre les puissances en place. À l'intersection de ces niveaux se joue une certaine politique des langues au sein de la custode, visible dans les travaux de la typographie. Ce que je vais vous présenter là se fonde donc sur la documentation disponible dans les archives de l'imprimerie franciscaine, aujourd'hui recensée et classée grâce au travail des frères archivistes, et également dans la bibliothèque de la custode, où se trouvent quelques cartons non répertoriés concernant par exemple des exemplaires d'ouvrages fabriqués à l'imprimerie et quelques éléments d'archives plus matériels. Ce travail donc aborde la question de, c'était le point central du programme Open Jérusalem, de ce qu'on avait appelé la citadinité, des manières d'habiter la ville de Jérusalem à travers la question de la langue et de ses usages, parlés, écrites, récités, affichés. Je vais essayer d'articuler une approche locale, donc vraiment centrée sur la custode, à la dimension plus globale et internationale d'une politique des langues à l'œuvre dans la ville. Ainsi, donc, la question linguistique n'est pas abordée a priori comme un indice identitaire, une langue s'attachant à un segment de la population urbaine, ou contribuant à une lecture téléologique de la construction nationale, via notamment l'arabisation, qui est un fait qu'on observe, l'arabisation des gens de Jérusalem ou des rites en Terre Sainte. L'approche par la langue vise ici plus modestement à rendre compte du son, ce que j'appelle le son de la ville, entre 1847 et les temps du mandat britannique. Elle est aussi au cœur, vous allez le voir, de la stratégie établie par la custodie en Terre Sainte, celle d'un accompagnement spirituel autant que d'une influence politique et d'une activité rentable. Il s'agira donc de comprendre les différents niveaux du politique à l'œuvre dans la question linguistique, en partant de l'atelier typographique lui-même, puis de la mission franciscaine dans ses dimensions spirituelles et temporelles, pour éclairer enfin la place de cette production linguistique dans une concurrence internationale pour le contrôle de la région. L'œuvre de l'imprimerie franciscaine est paradoxalement peu connue, je l'ai dit, alors que Ami Ayalon, par exemple, dans son Reading Palestine, la mentionne à peine dans cette belle histoire de l'écrit qu'il a faite. Il note pourtant, je cite, « The Franciscans, starting as early as 1846, ran the most active operation in this field. » Donc, il constate que c'est l'un des lieux les plus dynamiques, mais il ne s'étend pas beaucoup sur son activité. Il mentionne par ailleurs le nombre important d'ouvrages publiés en langue arabe à l'imprimerie franciscaine avant 1900, puis entre 1900 et 1948. Donc tout d'abord, apprendre et enseigner les langues, c'est le cœur de la mission en Terre Sainte. Jérusalem, au tournant du XXe siècle, peut être considérée comme une ville levantine classique, mettant en jeu des définitions possibles du cosmopolitisme, où le multiconfessionnalisme génère et entretient des polyglossies anciennes, issues des langues de culte, de langues sacrées ou sacralisées, de communautés superposées, de migrations successives, mais aussi de la présence de puissances tutélaires articulant Église et nation. Si vous suivez ce séminaire, j'imagine que tout ça vous est déjà assez familier. En 1920, donc, on peut dire qu'on y entend et y lit de l'arabe, de l'hébreu, du ladino, du syriaque, de l'éthiopien, du grec, de l'arménien, mais aussi de l'anglais, de l'allemand, du russe, du français ou de l'italien. Au sein de la custode, la langue véhiculaire est l'italien, d'abord parmi les frères eux-mêmes. Mais ils apprennent l'arabe dès leur arrivée et une partie de la production de manuels à l'imprimerie est destinée justement à outiller les frères pour cet apprentissage. On trouve à la bibliothèque de la custode ces manuels annotés par des religieux et également des listes de vocabulaire portant les traces visibles du travail, du labeur de ces frères. Ces objets nous permettent assez facilement d'imaginer les nouveaux arrivants européens venus confronter les rudiments de langue apprises ailleurs à une mise en acte réelle de la langue. Les lignes de vocabulaire et de conjugaison sont tracées patiemment, à la plume, sur des cahiers. Ces traces nous renseignent sur la confrontation entre cet apprentissage patient et la langue de tous les jours, moins figée et plus déroutante. On trouve sur les marges de ces listes de vocabulaire des notes qui renseignent sur l'usage le plus courant à Jérusalem, bien souvent à partir d'un apprentissage qui est l'apprentissage de la langue arabe, disons classique. La langue italienne du couvent est par elle-même une lingua franca. Elle fait partie de l'univers familier de l'ensemble de ceux qui entrent en religion et portent la langue italienne comme un signe d'appartenance à leur ordre, comme d'autres portent ailleurs le français, le grec ou le russe comme langue de mission. Ce qui signifie que les frères ne sont pas tous italiens, évidemment. Ils viennent de différents pays. En revanche, la langue de l'atelier, à la typographie, n'est pas donnée. Elle est une question fondamentale qui se pose dès l'installation de l'imprimerie et des autres activités manufacturées du couvent. Il y a d'autres ateliers à l'intérieur du couvent franciscain. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le directeur de l'imprimerie, un franciscain européen, Fratello Guido, assure la bonne marche des opérations techniques qui se succèdent et l'éducation chrétienne des ouvriers. C'est-à-dire, c'est à la fois le directeur de l'atelier, mais il est chargé de mission auprès des ouvriers, notamment en les obligeant à se rendre à la messe matinale avant le travail et en tenant des conférences spirituelles hebdomadaires. Ces dernières se tiennent en italien, parfois en latin. Mais à partir des années 1870, le souci de toucher le public des ouvriers pousse les directeurs spirituels à s'acquitter de cette mission en langue arabe. Les notes prises par le Fratello Guido au début des années 1880, donc son journal se trouve aux archives de la custode, le montre en assez grande difficulté face à cette tâche qui remet en question son autorité sur les ouvriers et dont il estime avoir la charge spirituelle comme temporelle. À la date du 27 août 1879 de son carnet, on le voit reprendre et refaire une conférence spirituelle en italien qu'il résume simplement ensuite en arabe. Ses prestations en arabe sont toujours difficiles, comme l'est le recrutement, par exemple, d'un correcteur de langue arabe ou l'effectuation de diverses tâches dans cette langue. Ça pourrait surprendre. Cela pourrait sembler en effet surprenant, mais c'est surtout révélateur de la difficulté pour les religieux catholiques à se constituer des ouailles et des fidèles. La quête de locuteurs arabes répond pourtant principalement à une demande pragmatique. Pour les franciscains de Jérusalem, la langue arabe n'est pas présentée comme une fin en soi. À la custode ne se développe pas l'un de ces laboratoires orientalistes que l'on connaît à Rome, Paris ou Beyrouth. On y développe un service totalement intégré à la mission d'enseignement, voire d'évangélisation, parfois simplement de diffusion de la présence catholique. L'essentiel, là, est de pouvoir offrir un service efficace et correct dans les langues de la région, et particulièrement en arabe, peu représentées encore au milieu du XIXe siècle dans les objets imprimés à la custode. C'est dans ce but que l'imprimerie franciscaine développe dès les premières décennies de son existence une spécialisation dans les outillages linguistiques, articulés de manière concrète et logique à ses missions d'implantation en Terre Sainte et de gestion des pèlerinages, et ses missions d'enseignement et de bienfaisance via le réseau d'écoles et d'orphelinats d'Alep à Alexandrie, puis au-delà. Elle développe donc des techniques spécifiques pour imprimer en plusieurs langues et en plusieurs alphabets. Les manuels scolaires bilingues sont nombreux et distribués dans les écoles de l'ensemble de la région. Les grammaires sont également envoyées dans les relais régionaux. Ainsi, on peut lire au 1er mars 1859 que 541 exemplaires d'une grammaire italien-arabe sont envoyés à Beyrouth, un exemple parmi de multiples autres. La spécialisation dans les langues amène l'imprimerie, en tant qu'elle est aussi maison d'édition, à lancer de grands projets, comme le best-seller arabe-italien, sur lequel je reviendrai, et le dictionnaire quadrilingue, qui occupe l'équipe de l'imprimerie pendant toute l'année 1880. Il s'agit d'un dictionnaire français, turc, italien, arabe, à l'usage des collégiens d'Alep. Voici ce qu'on lit sur la couverture. Bon, c'est en latin, je vous ai parlé en latin, usus uius dictionari. En français, ça donne l'usage de ce dictionnaire à destination des écoles de la Custode et d'abord du collège d'Alep, suppose la connaissance de la langue française pour faire face au vocabulaire manquant dans les autres langues. Cette phrase est convoquée dans une autre langue, donc en latin, la langue latine universelle de l'Église catholique, est apposée comme une notice de lecture. Elle fait état, en apparence, d'une inégalité des langues et de la décision d'opter pour une seule langue de référence, le français en l'occurrence, pour ordonner les autres. On en comprend le sens également en lisant les carnets, toujours du même directeur de la typographie, et les notes prises pendant la mise en place du projet. La difficulté du travail pour le dictionnaire réside dans le fait qu'il ne se trouve pas à cette date au couvent un érudit capable de s'atteler à l'ensemble des quatre langues et à la circulation entre elles. Il faut donc multiplier les circulations entre deux langues, nécessitant l'établissement d'une langue référent, de telle manière qu'une organisation du travail à trois pour les corrections puisse se mettre en place. Je vous cite le carnet. « Depuis un certain temps, un dictionnaire en quatre langues est à l'impression et les corrections sont faites par le père Pino, le père Leone et le père Vincenzo. Comme il est difficile de s'arranger avec les quatre langues, il a été décidé de tirer trois jeux d'épreuves et que les trois correcteurs se réunissent pour pouvoir se consulter et faire ensemble la première correction. » Bon, par ailleurs, la présence du français dans ce cas particulier comme langue de référence peut s'expliquer par le fait qu'Alep est à l'époque déjà un territoire très investi par d'autres missions catholiques, le plus souvent de langue française, comme les lazaristes ou les capucins. Certains observateurs témoignent de cette répartition trilingue, voire quadrilingue, si on ajoute la langue de l'Empire, ottoman, des catholiques d'Alep. L'ambition particulière et officielle des religieux, sans cesse réitérée, fidèle à la mission d'extension de la foi catholique et de sa diffusion, selon l'idée d'Église universelle, est de faire circuler les langues et les traductions. L'imprimerie, celle de Jérusalem au premier chef, est un lieu d'observation des conditions de possibilité technique de ces circulations. Elle rejoint bien sûr une vision coloniale qui passe par les appropriations de langues et de gestes et qui conçoit sa présence comme un travail sur l'échange et sur la réciprocité. En cela, la traduction peut être vue comme l'une des armes les plus fortes et les plus subtiles de la conquête. Deuxième aspect de ce travail à l'imprimerie franciscaine, qui se développe à partir de ce que je viens de décrire, l'imprimerie devient une sorte de centre linguistique et commercial. En tant qu'entreprise ouverte sur la ville, l'imprimerie a d'abord et d'emblée pour tâche de s'adapter à la polyglossie qui l'entoure. Elle imprime dans de multiples langues et le matériau qu'elle achète, construit et accumule doit servir à s'adapter aux commandes et à être en mesure de passer d'une langue à l'autre. Ainsi, les caractères d'imprimerie, par exemple, sont commandés au fur et à mesure des commandes et projets, ajustés au fil de l'eau et corrigés de telle manière que l'écriture puisse répondre aux exigences des auteurs comme des lecteurs. Les carnets de comptes des trois premières décennies d'activité montrent comment l'impression des caractères en langue arabe pose des problèmes spécifiques et nécessite des ajustements particuliers. Je vous en ai déjà parlé, la quête d'un correcteur compétent pour la langue arabe occupe une place importante dans les premières années pour les directeurs de la typographie. Il s'agit de trouver une personne compétente pour ajuster les caractères arabes sur les machines, effectuer les réglages nécessaires et commander les bonnes lettrines. Ce technicien et savant est souvent importé du Mont Liban, car il se doit d'être à la fois bon arabisant et catholique. Apparaissent ainsi le nom de Simon Hallar au crayon dans les registres, On nous explique que Simon Hallaq a réajusté la machine du corps arabe égyptien 14, et on peut noter ça à plusieurs moments dans ces registres. Avoir la liste des tâches d'imprimerie consciencieusement consignées par les chefs d'atelier, mentionnant l'ouvrage, le commanditaire et les ouvriers en charge, on peut se faire une idée de la diversité des œuvres et des langues, mais aussi de la présence de ces langues en différents lieux de la cité. Ici, on imprime des catéchismes, dont le célèbre catéchisme en langue arabe de 1847, qui est le premier livre imprimé en langue arabe en Palestine, des livres d'histoire des croisades. Ailleurs, on livre 200 copies de feuilles en tête, simplement pour le consulat d'Autriche, probablement en allemand, avec une traduction arabe ou française. Au début du XXe siècle, on comprend comment l'imprimerie se transforme et s'adapte. Les listes de clients, glanées au hasard des livres de paiement, livrent ces noms. Je vous donne une liste un petit peu en vrac. Jérusalem Hotel, Governo, donc gouvernement, Grand New Hotel, la Signora Maroun, Madame Maroun, la Banque Ottomane, le Consulat de France, Béchara de Bethléem, Monsieur Béchara de Bethléem, Hallaq, le même Hallaq qui vient réajuster les machines et qui là est payé pour de la reliure, les Giuseppine del Pensionat, donc des sœurs d'un pensionnat de Jérusalem, et l'hôpital français. Au cœur de la guerre, le marché semble s'être resserré autour de quelques clients, mais il semble que les frères aient réussi à obtenir d'être approvisionnés, par exemple en papier. On trouve quelques traces de ces négociations dans les archives. Ils semblent d'ailleurs devenir en grande partie fournisseurs en papeterie. Cartes de visite, étiquettes, enveloppes avec impression, feuilles en tête, programmes de messe, catéchisme. Les commanditaires se font moins divers, au fur et à mesure du temps, plus spécifiques, se resserrant autour du patriarcat, d'un certain nombre d'ordres, d'écoles et de quelques clients fidèles et solvables, comme la Banque de Rome ou le Crédit Lyonnais. Ce sont ces clients que l'on retrouve également après-guerre, pour certains si bien connus qu'on les désigne simplement de l'avocato turco, l'avocat turc, ou l'hébreu des fleurs. Les livres s'organisent alors en pages par client. On retrouve une autre organisation. C'est le développement de l'ensemble de ces activités qui détermine la transformation de l'imprimerie de la Custode en une sorte d'imprimerie centrale de la ville, à la fois prestataire pour de nombreux clients privés et imprimerie officielle des représentations de l'Empire puis du mandat britannique. Donc au sortir de la Première Guerre mondiale, grâce à l'avancée technique de l'atelier franciscain et à sa capacité à faire face aux commandes, c'est à la Custode que l'on fabrique tout le matériel officiel pour le gouvernement britannique. Affiches, annonces sur les places publiques, bulletins de guerre, trilingues ou quadrilingues, et jusqu'au formulaire de commande de bottes pour la police. Dans le même temps, on imprime des tickets de chemin de fer, des souches pour les banques, des étiquettes pour les bagages, du papier en tête pour les grands hôtels, les magasins, les postes et les écoles. La compétence particulière dans les passages entre les langues explique qu'elle endosse le rôle d'imprimerie nationale au moment de l'installation des Britanniques, en se fondant sur le fait qu'elle met en valeur la diversité de ses capacités et de ses activités dès la fin du XIXe siècle, et cela, contrairement aux autres imprimeries, restaient très orientées sur leur communauté et sur les demandes qui lui sont liées. On peut évoquer par exemple l'imprimerie arménienne ou grecque, qui sont très proches. Les travaux effectués pour le gouvernement du mandat sont l'objet d'un relevé séparé à partir de 1918. On y trouve des laissez-passer, des proclamations, toujours des étiquettes, de la papeterie, etc. Ils forment une partie très importante des registres de commandes, regroupés sous l'appellation Central Stores, magasins généraux, par la suite. On y voit des sommes importantes parmi les seules à être réglées mensuellement et non à la tâche effectuée. À ce client, le principal, s'ajoutent d'autres gros clients comme la Banque de Rome ou le Crédit Lyonnais ou des institutions comme l'Hôpital français ou la Régie des tabacs, ainsi que l'ensemble des consulats qui apparaissent sur les livres de compte à partir de mars 1920. Donc les archives de l'imprimerie, par-delà la Custode, permettent ainsi de voir une administration s'installer, s'affirmer dans la ville et de comprendre l'ordonnancement du mandat à l'échelle de la ville capitale. Les Britanniques s'adaptent à des usages déjà anciens qui régissent la vie publique, celle du commerce des hommes et des dieux dans Jérusalem, celle des passages entre les mondes, caractérisés à la fois par leur diversité et par leur coexistence très réglée. À la lecture des objets imprimés issus de la typographie, on perçoit à la fois la diversité des langues en usage et les registres qui leur correspondent. Les cartes de visite, par exemple, signalent l'activité des commerçants dans les langues de la clientèle réelle ou espérée. On commande en anglais dans l'espoir d'attirer la clientèle internationale. On les imprime nécessairement en plusieurs langues pour signaler une activité, par exemple, de dragoman, donc de traducteur. Les formulaires bancaires sont également bilingues, voire trilingues, pour l'usage des habitants du pays. Les consulats impriment des menus de fête dans leur langue, traduits parfois en anglais, en français ou plus rarement en arabe. Un bruit, donc, un son, voire même une cacophonie de la ville passe par tous ces papiers, bruissant de la vie citadine dans sa diversité. Elle révèle les usages dans différents cercles de sociabilité. La traduction permanente se lie aussi dans les passages entre les monnaies, qui semblent également être naturels dans le commerce de la cité de Jérusalem. C'est plus connu, on paye en francs, en centimes, en pounds, en anciennes piastres, et les changes sont aussi fluctuants que les monnaies en usage. En amont même de l'activité d'impression, les matières premières, comme les machines, dessinent des itinéraires qui lient ces papiers urbains avec d'autres pôles. Les machines et les premiers caractères viennent de Vienne, de Mayence ou de Leipzig. Les tables en hêtre pour l'atelier, le fil de la reliure, l'huile de lin utilisée comme cicatif des encres végétales viennent tous de Venise. Les couleurs sont commandées en Turquie. Certains papiers, notamment la carta fiorita, sont commandés à Lyon. D'autres, pour le papier des cartes de visite, par exemple, à Paris. À Laval, les livres et les papiers dépassent largement la circulation urbaine pour aller fournir des dépôts et des collèges à Alexandrie, Mansoura, Smaïlia, Port Saïd, Beyrouth, la Syrie, le Caire, Nazareth et même l'Irak. En cela, l'imprimerie constitue bien une sorte de centre névralgique. J'en viens maintenant à ma troisième partie qui articule cette activité de l'imprimerie avec le jeu politique global. Le travail sur les langues n'a pas uniquement une visée pratique et commerciale. Il est d'emblée politique. D'abord, parce qu'il accompagne la mission et prend au sérieux la nécessité de rendre le message chrétien, ici catholique, universel. Dans l'atelier typographique et à l'imprimerie, les langues circulent et doivent répondre à la double injonction du travail et de l'élévation spirituelle. L'insistance mise à être et à rester la première imprimerie de langue arabe se comprend, du point de vue des franciscains, dans un souci de distinction vis-à-vis d'autres communautés, tournées vers leur langue de culte ou celle de leur protecteur. Dans les années 1920, cet enjeu n'est plus aussi fondamental. Les imprimeries se sont développées et ne sont plus autant un lieu de pouvoir. Autant en 1847-1848, au moment où les franciscains installent leur imprimerie et commencent à imprimer en langue arabe, il y a peu d'impression, où il n'y a même pas d'impression en langue arabe à Jérusalem, autant à partir des années 1900, à partir de 1908 justement, l'impression en langue arabe s'est développée dans l'ensemble de la région, en Palestine et également à Jérusalem. Donc ils ne sont plus en situation, disons, de monopole. Donc les journaux et les revues ont fleuri, les auteurs de langue arabe peuvent maintenant faire imprimer leurs livres avantageusement, y compris un peu plus loin, au Caire, à Beyrouth ou à Bagdad. À partir de ce que j'ai pu, moi, observer dans les bibliothèques à Jérusalem, je n'ai pas constaté d'impression, en tout cas de littérature, directement à Jérusalem. Les auteurs s'adressent à d'autres imprimeries plus performantes et plus connues, au Caire, à Beyrouth ou à Bagdad. Ce boom de l'impression qui suit la révolution de 1908 n'épargne pas Jérusalem. On y voit fleurir les journaux, les imprimeries et même les formations à l'impression, notamment une qui est particulièrement intéressante et qui se tient à l'orphelinat allemand, Dar al-Aitam. Chose juste en incise, il se trouve que les ouvriers des imprimeries à Jérusalem sont essentiellement des orphelins qu'on forme dans l'atelier pour qu'ils deviennent ensuite spécialisés. Avec les petits objets de papier du quotidien, les dictionnaires ont pris place comme un produit particulièrement recherché dans les productions de la typographie chez les franciscains. Les diasporas levantines passent commande, on peut le voir ici ou là, de dictionnaires ou de lexiques pour les aider à vivre dans les pays où ils se sont installés. Ainsi d'un Libanais installé à Chicago qui a besoin d'un vocabulaire anglais-arabe, d'un autre à Brooklyn qui commande une méthode d'anglais en arabe, ou d'autres encore qui ne cherchent pas forcément un outillage linguistique mais une manière de faire passer un peu de leur monde familier dans une autre langue. De la même manière que la production de cartes de visite, était une manière d'insérer la custode dans une circulation politique de l'écrit dans la ville, l'impression et la traduction de dictionnaires est un lieu politique resté inaperçu jusque-là. Dans les années 1920-1930, c'est notamment la spécialisation de l'imprimerie de la custode dans le passage entre l'arabe et l'italien qui va peu à peu lui ouvrir de nouveaux marchés liés à l'expansion coloniale italienne et à la politique communautariste des fascistes en Terre d'Orient. Ainsi, on voit apparaître et se multiplier les commandes de dictionnaires arabe-italien pour la communauté italienne d'Égypte, puis en tripolitaine. En 1922, une lettre du vicaire apostolique de Libye au père Custode mentionne toute une stratégie de publicité pour faire adopter le dictionnaire dans les écoles et les administrations en Libye. Je traduis. « Si vous voulez, envoyez ici une centaine de copies. Nous les ferons exposer par les libraires. » Ceux-ci, si on leur laisse un petit bénéfice, feront certainement tout pour le vendre, et une fois connu du public, il continuera à se vendre bien. Il donne encore des conseils de diffusion et de propagation de l'œuvre linguistique de la custode, à l'heure où le gouvernement italien a besoin d'outillage pour passer de l'arabe à l'italien, et comme le souligne ce même courrier, doit développer également des outils linguistiques pour passer de l'italien à l'arabe. Il encourage les frères de Jérusalem à se mettre au travail. Un marché est en train de s'ouvrir et il faut être présent. Cette politique semble avoir été suivie d'effet, puisque l'on voit se multiplier les commandes d'ouvrages et de dictionnaires venant de Tripolitaine, notamment dans les années 1930. En 1937, des remerciements arrivent sous la forme d'une lettre émanant du ministère des Affaires étrangères de l'Italie fasciste. L'imprimerie a offert des livres à un certain nombre d'institutions, peut-on comprendre, suivant là les conseils formulés en 1922 par le vicaire apostolique de Libye. On peut formuler l'hypothèse qu'il s'agit là d'un nouveau dictionnaire arabe-italien dont le projet, formulé en 1935, est présent dans les archives et dont l'objectif est d'être éminemment pratique. Cette nouvelle édition, dit-on, doit faire la synthèse des connaissances, mais aussi, je cite, « éliminer toutes les formes verbales et nominales qui se rencontrent trop rarement dans le style ordinaire des auteurs antiques comme modernes. Faire une place plus grande aux termes scientifiques et technologiques, indiquer les significations des termes en arabe dans diverses régions, comme l'Égypte, la Syrie, la Tripolitaine et l'Algérie, ne pas exclure les paroles vulgaires d'usage fréquent, ni les mots étrangers qui se rencontrent fréquemment dans les journaux et périodiques. Il s'agit bien là d'extraire la connaissance des langues du champ strict du savoir académique pour lui donner une dimension pragmatique. Elle s'adapte directement aux zones dans lesquelles se trouvent des communautés italiennes et des ambitions coloniales italiennes. On peut voir, en effet, dans l'assistance à avoir une langue qui puisse se parler un peu n'importe où, cette idée de fournir, en particulier les troupes, avec ces outillages linguistiques. Cette ambition est rendue tout à fait explicite dans le projet, à l'article 10, je cite, « L'Italie a besoin de ce nouveau dictionnaire arabe-italien pour ses colonies et les compatriotes résidant en Égypte et dans d'autres pays musulmans. » Notre propos ici n'est pas de mentionner une collision politique honteuse, mais bien de voir comment l'opportunité d'une compétence linguistique et la vision coloniale fasciste italienne centrée sur l'appui sur les missions et les œuvres scolaires ainsi que sur l'apprentissage de l'italien vont permettre que soit bâtie une complémentarité entre deux institutions. L'exemple du dispositif mis en place par la France via l'œuvre des écoles d'Orient, fondée en 1865, vis-à-vis des missions jésuites et lazaristes en Syrie, a montré dès le XIXe siècle, dans un terrain voisin, combien une politique culturelle et intellectuelle fondée sur les missions chrétiennes pouvait être un moyen d'asseoir une influence politique solide. D'emblée, il faut remarquer que l'imprimerie franciscaine devient de plus en plus italienne sous le mandat. Elle compte parmi ses clients les plus fidèles, outre le gouvernement mandataire, des institutions phares de la présence italienne, sur lesquelles je ne reviens pas ici aujourd'hui, comme la Banque de Rome, où la custode dépose également son argent. Alors que si on regarde de plus près dans les archives, on voit que l'articulation entre le dépôt de l'argent à la Banque de Rome et les liens avec le gouvernement italien apparaissent de manière de plus en plus ferme au fur et à mesure de la montée de l'Italie, enfin, du gouvernement fasciste en Italie. Elle contribue à faire de l'italien une langue de circulation à l'intérieur de la ville de Jérusalem en imprimant des affiches et des cartes de visite en italien. Et comme l'a bien montré Liora Alperin dans son ouvrage sur les langues en Palestine, Babel in Zion, cette visibilisation des langues dans l'espace public est un enjeu puissant dans la Palestine mandataire. À partir de 1922, l'italianisation rencontre la politique fasciste et permet à l'imprimerie de développer tout un pan de son activité en direction du passage entre Italiens et Arabes. Il n'est pas anodin de noter alors la place que fait la politique fasciste à la Custode, de son côté, considérée comme un symbole national en charge de diffuser l'italien en Terre Sainte, et les valeurs d'une Italie dont je vous rappelle que Saint-François est considéré comme le saint national par excellence au temps du fascisme. Ainsi, le travail accumulé à l'imprimerie prend place dans l'œuvre de propagande éducative développée notamment par le ministre de l'Éducation Giovanni Gentile, faisant de l'Istituto per la Propaganda della Cultura Italiana, Institut pour la diffusion de la culture italienne, qui englobe par exemple l'œuvre Montessori à l'époque, ils en font une personne morale dès novembre 1921 et l'intègrent dans leur stratégie coloniale. Bien plus, il devient un élément clé dans les territoires arabophones de l'application des accords du Latran, signés en 1929 entre Mussolini et l'Église catholique romaine. J'ai été très bref. On comprend donc, en fermant la porte de cette exploration par les langues d'une des institutions culturelles majeures de Jérusalem au tournant du XXe siècle, il s'agit de dire et d'habiter cette ville-monde et de se situer au carrefour de politiques relativement complexes. L'installation de l'imprimerie franciscaine accompagne d'emblée une ambition politique et religieuse du Vatican en phase de reconquête de la Terre Sainte. Son développement au sein d'un des pôles urbains majeurs des provinces arabes de l'Empire lui permet donc de faire le pont entre les langues de la ville et de la région en devenant une imprimerie multilingue performante. Ainsi, dès l'installation du mandat britannique, elle est, je l'ai dit, l'imprimerie nationale. Elle est le lieu où se fabriquent les voix du politique qui s'affichent et s'édictent dans les rues de la ville en de multiples langues. Enfin, c'est en tant que couvent franciscain, micro-monde où la parole circule en italien et ambassade officieuse du Vatican, qu'elle prend le relais d'une politique italienne en terre arabophone, une politique qui l'extrait des exigences locales du mandat britannique en Palestine, pour l'engager dans l'affirmation d'un impérialisme italien alors très offensif. La clé de lecture linguistique, me semble-t-il, permet ici de distinguer les strates d'engagement de ce lieu. Elle ne joue pas simplement comme un miroir des langues parlées, écrites ou imprimées dans la ville, mais elle révèle les polyglossies spécifiques à la ville de Jérusalem. Ville d'accueil pour les pèlerins du monde, on voit s'y développer, notamment à partir des années 1920, de vastes efforts en leur direction. L'imprimerie des franciscains, au-delà de sa vocation spirituelle, joue un rôle clé dans l'accueil de ces touristes d'un genre particulier. Elle édite et imprime tous les papiers qui leur seront nécessaires, du guide aux cartes postales, en passant par les tickets pour entrer dans la ville, les étiquettes pour leurs bagages, les formulaires pour leurs hôtels, les papiers en tête sur lesquels ils écriront leurs réflexions, les chèques qu'ils endosseront. Elle fournit également à leurs guides et traducteurs les cartes de visite qui les font connaître. En cela encore, elle suit les transformations de la ville vers une marchandisation des lieux saints, qui est une autre forme de politique par les langues. Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, elle reste un guichet pour la vie locale, où l'on vient passer commande d'une empreinte pour des moments citadins importants, mariages, diplômes, fêtes, enterrements, ou pour des travaux professionnels courants, étiquettes, billets de transport, affiches. Les petits papiers qui s'impriment au couvent de la Custode relient ainsi le vaste monde, la relie ainsi au vaste monde, mais aussi aux micro-localités citadines. Au cœur de cette insertion se situe une vraie politique des langues dans son sens le plus concret. Je vous remercie.
Merci, Leïla. Je vois que tu es toujours une fidèle disciple de Roger Chartier, puisque je savais qu'une de tes ambitions était de faire le travail que Roger Chartier avait fait pour l'édition française du XVIIe, XVIIIe siècle, le faire pour le Proche-Orient arabe. Et évidemment, c'est une recherche d'une autre dimension, parce que là où Chartier peut avoir une collaboration d'un certain nombre de chercheurs, tu es pratiquement une exploratrice individuelle de ce domaine-là. La Custodie de Terre Sainte, évidemment, nous la connaissons, mais notre public ne la connaît pas nécessairement. Il faut revenir à l'époque des croisades, quand les Francs perdent complètement la Terre Sainte, c'est-à-dire après la prise de Saint-Jean d'Acre, se trouve la nécessité de réorganiser le pèlerinage catholique à Jérusalem, enfin le pèlerinage chrétien d'ailleurs à Jérusalem dans le cas précis, et donc une négociation dont j'ai oublié tous les détails parce que je ne les ai jamais appris. Donc une négociation a conduit l'Église catholique à passer un accord avec le sultanat mamelouk autorisant les franciscains à s'installer à Jérusalem pour s'occuper du pèlerinage, et c'est donc ce qu'on appelle la custodie de Terre Sainte, les gardiens si vous voulez. Et pendant très longtemps, les franciscains ont eu le monopole de la présence européenne à Jérusalem, parce que Jérusalem n'était pas une échelle du Levant. Les échelles du Levant étaient ces villes, ce n'est pas nécessairement des ports, puisque Alep ou le Caire étaient des échelles, mais Damas n'était pas une échelle. Donc les échelles du Levant étaient ces villes qui étaient ouvertes aux Européens. Et quand on n'est pas une échelle, la ville est interdite, en quelque sorte. Et en particulier, il ne peut pas y avoir de consulat. Il y a des consulats à Alep, il y en aura à Acre, il y en aura à Alexandrie, il n'y en a aucun parce que ce sont des échelles. Mais il n'y a pas de consulat à Jérusalem. Et donc ce monopole des franciscains sur la ville sainte va être trouvé perturbé avec l'arrivée des Ottomans au XVIe siècle, puisque les Ottomans vont amener dans leur bagage les Arméniens et les Orthodoxes, ce que j'ai appelé ailleurs la byzantinisation de l'Empire ottoman, ce qui est une expression en apparence paradoxale, mais qui me permet de comprendre beaucoup de choses pour l'histoire des chrétientés orientales, c'est le fait que, depuis le 7e siècle, le Proche-Orient arabe était coupé de Constantinople. Et l'arrivée des Ottomans vers 1516-1518, rétablit la communication avec Constantinople, avec la Seconde Rome, et réintroduit les gens de la Seconde Rome, qui sont en particulier les orthodoxes et les arméniens, ce qui va entraîner, à partir du XVIe siècle, un conflit permanent des églises à Jérusalem, puisque avant l'arrivée des Ottomans, c'était en quelque sorte la custodie qui avait le monopole de la présence chrétienne à Jérusalem. Alors, cette custodie, comme tu l'as montré, est italienne. Et l'ouverture de la Terre Sainte, ça correspond à la période dite de l'occupation égyptienne de 1833 à 1840, qui introduit dans la foulée la réintroduction des consulats. Ou l'introduction des consulats. Et à côté des consulats vont arriver les missionnaires. Les missionnaires, ce sont les protestants qui ouvrent le feu, en quelque sorte, puisque un accord entre la Grande-Bretagne anglicane et la Prusse luthérienne permet la création d'un évêché anglo-prussien à Jérusalem, dont la mission est à la fois de convertir les juifs au christianisme et de préparer l'avènement du millénium, puisque là on est dans la théologie protestante de l'accomplissement des prophéties. Alors du coup les Russes établissent une mission monastique à Jérusalem pour la Russie orthodoxe, et du coup Rome rétablit le patriarcat latin qui avait disparu avec les croisades, et le patriarcat orthodoxe qui était normalement de Jérusalem, mais qui était installé presque une partie bus à Constantinople, revient dans les années 1840 à Jérusalem. C'est donc dans ce contexte de la lutte des missions entre protestants, catholiques, arméniens, et à l'intérieur des catholiques, entre les Français et les Italiens, parce qu'en gros les autres ne pèsent pas, que la scène va se jouer. Alors, bon, les Français ont été rapidement déçus parce que le patriarcat latin était aussi dominé par les Italiens, et tous les patriarches latins ont été italiens jusqu'à une date récente où on a eu pour la première fois un patriarche arabe. Cette lutte, bon, évidemment, on la connaît de façon anecdotique sur les bagarres de moines dans les lieux saints qui peuvent provoquer des guerres européennes, comme la guerre de Crimée, mais c'est avant tout une lutte culturelle. Et parce que ces missions vont produire une formidable offre culturelle aux populations de la région, évidemment, en première instance aux populations chrétiennes, mais avec l'espérance que par contamination, en quelque sorte, on puisse toucher les musulmans et les juifs. Et là, on entre dans le paradoxe missionnaire. Les protestants se sont vantés d'avoir modernisé la langue arabe parce qu'ils ont retraduit pour la xième fois la Bible en arabe à Beyrouth dans les années 1860, entre autres avec de Boutros al-Boustani, un des grands personnages de la Renaissance littéraire arabe. Mais en réalité, les protestants, qu'ils soient américains ou anglais, parce que les américains arrivent en même temps que les protestants anglais, on les appelle tous les deux des biblistes, mais à Jérusalem, ce sont essentiellement des Anglais, puisque les Américains sont à Beyrouth. Donc les protestants, très rapidement, vont enseigner surtout en anglais. Ça donnera d'ailleurs naissance au Syrian Protestant College en 1865, l'actuelle université américaine de Beyrouth. Et parce que c'est un lieu où il n'y a pas de catholiques, c'est en anglais que va se faire l'une des genèses du nationalisme arabe. Alors que les missions catholiques, comme tu le dis très bien, sont orientées sur une renaissance culturelle des catholiques orientaux en arabe. Et on voit par exemple à Beyrouth, à côté de la bibliothèque orientale de Beyrouth, toute une action qui fait que les catholiques, les jésuites en particulier, qui sont considérés traditionnellement comme hostiles au nationalisme arabe, s'expriment en arabe, alors que les protestants, eux, s'expriment en anglais. Et on a là donc ce paradoxe culturel. Il n'y a pas de revue littéraire arabe protestante, alors qu'il y a des revues littéraires arabes catholiques dans le Proche-Orient. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la transformation, parce que quand on est dans les années 1840, c'est juste le moment où, du début de l'amorce du basculement de la culture du manuscrit vers la culture de l'imprimé dans le Proche-Orient arabe. C'est-à-dire une révolution intellectuelle absolument intense. Alors c'est vrai, bon, il y avait eu les imprimeries des monastères libanais depuis le XVIIIe siècle, mais bon, je trouve que c'était à l'époque, on surévalue cette histoire des imprimeries libanaises dans la Vallée Sainte. Mais bon, il y a eu l'imprimerie de Bonaparte en Égypte, qui était d'ailleurs une imprimerie catholique, puisque en fait les Français avaient confisqué les fontes arabes de l'imprimerie de la propagande à Rome pour publier en arabe lors de l'expédition d'Égypte. Belle confiscation, prise de guerre, etc. Et c'est donc sur des caractères catholiques que Bonaparte expliquait qu'il était le nouveau Mahdi de l'islam, ce qui quand même était assez surprenant quand on y pense. Enfin bon, ça n'avait pas duré longtemps, cette imprimerie de l'expédition d'Égypte. Il faut donc attendre Boulak, c'est-à-dire à peu près des années 1820, pour qu'on ait une imprimerie d'État en arabe, et ceci évidemment, en Égypte. Et en Palestine, ce sont donc des franciscains qui inventent ou installent l'imprimerie, ou en tout cas l'imprimerie arabe, puisque au Proche-Orient, il y a eu des imprimeries avant le 19e siècle, mais elles étaient réservées à des groupes communautaires ou à des étrangers. Elles ne publiaient pas en caractère arabe. Signalons que les premières imprimeries en caractère arabe commencent dès le XVIe siècle en Occident. Alors, on peut parler d'impérialisme culturel, etc., mais on imprimait en arabe, en Hollande, au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui ne se faisait nulle part dans le monde musulman à la même époque. Si avec les Anglais en Inde, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, apparaissent aussi des imprimeries en caractère arabe. Mais avant cette période, le monopole de l'imprimerie arabe est un monopole européen, ce qui, culturellement, est aussi un élément essentiel. Alors, on a d'abord, si je suis un peu ton découpage chronologique, on a une période levantine. Une période levantine, et Jérusalem est une ville levantine. On y parle des langues différentes, plusieurs types de langues. Les Européens, au lieu de se canonner et de faire des guerres, passent leur temps à créer des hôpitaux, des hospices pour les pèlerins et des écoles. La première morphologie moderne de Jérusalem, c'est la concurrence qu'on a, j'ai pu appeler jadis, évergétique, un gros mot, entre les puissances européennes pour créer, par leur concurrence, une ville moderne à Jérusalem, puisqu'on sort des murs à partir de cette date-là pour construire ces écoles, ces hôpitaux, et ces consulats qui marquent cette période levantine de Jérusalem. Alors, avec toutes les équivoques de la période levantine, équivoques qui sont marquées justement par une relative indifférenciation des identités, même si les consulats se font une course entre eux pour multiplier les protections consulaires aux indigènes. Il y a malgré tout, même s'il y a concurrence, les gens jouent sur plusieurs identités, et c'est ce qu'on a pu, peut-être de façon un peu utopique chez certains de nos amis actuels, faire une description presque idyllique d'un Jérusalem 1900 où les gens cohabitaient, mangeaient ensemble, discutaient, tout en étant des trois grandes religions, musulmans, chrétiens ou juifs. Il y avait un livre en anglais, comme ça s'appelait, Ottoman Brothers, qui essayait de décrire cette coexistence pacifique des communautés à Jérusalem avant l'arrivée des sionistes, c'est-à-dire à l'horizon 1900, puisque les sionistes en tant que tels n'arrivent qu'à partir de 1908. Comme toujours, date clé. Et on voit d'ailleurs très vite que quand le mouvement sioniste prend pied à Jérusalem, il amène une séparation des populations. Mais en même temps, si on peut dire, par exemple, c'est dans l'époque levantine, vous avez Ben Yehuda, l'inventeur de l'hébreu moderne, qui travaille à la bibliothèque, non pas de la custodie, mais des dominicains de l'école biblique de Jérusalem. Et c'est sur les livres des dominicains que Ben Yehuda invente l'hébreu moderne, ce qui montre cet état de coexistence qu'il y avait à Jérusalem à la fin du XIXe siècle. Et alors, il y a une nostalgie levantine aujourd'hui, bon, qui passe aussi par une certaine idéalisation de l'époque levantine, mais il est assez clair aussi que le Levant s'est largement suicidé. Dans la mesure, ça c'était ce que disait ton maître Robert Hilbert, dans le sens où les communautés ont progressivement perdu de leur indifférenciation pour se rattacher de plus en plus à leur extérieur ou à un contenu national. Elles se sont en quelque sorte nationalisées. Alors, ça a été le cas par exemple des Grecs qui sont devenus de plus en plus polarisés par la vie politique intérieure de la Grèce dans cette période. Et c'est évidemment, comme tu le montres ici, le cas des Italiens. Les Italiens, quelque part, à partir du mandat, s'italianisent, c'est-à-dire qu'ils s'identifient à l'Italie fasciste. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle le Levant va s'effondrer comme système culturel, à l'exception du Liban, parce que, justement, les communautés ont trahi, quelque part, cet esprit levantin. Je dis à l'exception du Liban parce qu'il n'y avait pas de communauté étrangère au Liban, et donc elles étaient toutes indigènes, et donc le levantinisme libanais a pu demeurer en se transformant jusqu'à aujourd'hui parce qu'il était indigène, ce qui n'était pas le cas du Levant de Galata, de Smyrne, d'Alexandrie ou de Port Saïd, pour citer quelques villes levantines. Alors, dans ton exposé, tu me parles, ça m'a intrigué, d'une histoire des croisades. Elle est publiée quand ?
Il faudrait que j'aille chercher mon ordinateur pour avoir la date exacte, mais c'est dans les années 1850.
Et en quelle langue ?
En italien.
Ah, en italien, oui. Puisque là, ça fait partie d'un de mes cheveux.
Mais il y a des. En fait, on trouve dans les archives de bibliothèque, des fois. On ne peut pas savoir si ça a été vraiment imprimé, mais il y a des traductions en langue arabe qui sont donc des manuscrits reliés, disons, qui sont en train d'être corrigés, donc il y a des corrections sur les marges. Et sur cette période-là, je n'ai pas trouvé les registres attestant de l'impression, donc je ne peux pas savoir si il y a écrit normalement que ça a été bon pour imprimer, mais je ne sais pas si ça a été réellement imprimé. Normalement, oui, mais je n'ai pas la trace.
Parce que ça, c'est un de mes chevaux de bataille habituels. On nous enquiquine sur les souvenirs des croisades qui auraient traumatisé les musulmans. Le problème, c'est que les musulmans ignoraient l'histoire des croisades. Ce qui, évidemment, un peu gênant dans la mesure où, évidemment, on a des chroniques médiévales sur les événements que nous appelons les croisades.
Bah oui, c'est ça. Oui, pardon.
Mais ces chroniques parlent de Francs. C'est une guerre contre des musulmans et les Francs. La distinction avec les Byzantins qui sont les Roms. Donc il y a les Roms, il y a les Francs, et puis il y a les musulmans. Et donc il y a des guerres qui ont lieu. Les musulmans ont parfaitement compris que le point central du conflit, c'était le pèlerinage à Jérusalem. Ça, ils l'ont parfaitement compris. D'où le fait d'ailleurs que pour éviter le retour des Francs, entre autres choses, ils autorisent la custodie de Terre Sainte sous les Mamelouks. Mais le mot croisade n'existait pas d'abord en arabe, d'abord parce que les croisés ne savaient pas qu'ils étaient des croisés. Ils ont mis un bon siècle à le savoir. Vous savez, il y avait une célèbre opérette dans laquelle les gens disaient « Nous, les gens du Moyen-Âge, mais il en est comme ça, nous, les classements des croisades, la première, la seconde, la troisième. Bon, ça s'est fait après par les historiens. Quand Saint-Louis partait, il disait, je ne pars pas pour la quatrième ou la cinquième croisade. Hein, il n'était pas au courant, lui, encore. Donc, vous avez très tôt en Europe une histoire des croisades. Et vous avez, par exemple, au XVIIIe siècle, un énorme travail autour de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un recueil des historiens des croisades, qui conduit ensuite des publicistes catholiques qui ont publié par ailleurs une revue qui s'appelait La Correspondance d'Orient, Michaud et Poujoulat, d'écrire une histoire des croisades en français. Et c'est cette histoire des croisades qui va être traduite en arabe par un patriarche grec catholique, je ne sais plus lequel, et qui sera publiée de façon posthume en arabe, qui va créer dans la langue arabe le mot salibéine, les croisés. Et on est donc justement dans les années 1870-1880. C'est-à-dire que la vision que les musulmans peuvent avoir des croisades vient de l'intégration par les musulmans de la vision historique de l'Europe.
Oui, je t'en prie. À laquelle il faut ajouter toute une littérature quand même représentant les Francs, de fait.
Ah oui, bah, de toute façon, c'est lié
au... Il n'y a pas une histoire, mais il y a plein d'histoires.
Il y a plein d'histoires, non, mais c'est lié aussi à tous les objets qu'on refile. Les pèlerins ou les touristes, ça vous refaçonne une société. Donc, les indigènes se calquent sur le désir soupçonné ou réel que les visiteurs ont d'eux. Donc, les indigènes de Palestine vont multiplier les postures bibliques pour les pèlerins. Alors, on voit très bien ça dans les photographies. Ils font des scènes bibliques parce que les pèlerins s'attendent à voir des gens de la Bible. Et donc, ça fait partie aussi de cette invention de la Terre Sainte dont j'ai parlé. Mais ces croisades vont devenir très vite. On voit Jamal Eddin El Afrani, dans les années 1880, se dire qu'il est le nouveau Pierre l'Ermite. C'est-à-dire que le grand réformateur musulman se compare à un prédicateur de la première croisade. Ce qui est assez extraordinaire quand on y songe. Non seulement il se compare, mais ses lecteurs arabes et musulmans le comprennent. Ce qui est encore plus surprenant. Mais ça montre à quelle vitesse la culture européenne refaçonne dans la modernité arabe de l'imprimé la culture locale. Donc si tu as quelques remarques sur ce que je viens de dire, et sinon on passe la parole à la salle.
Je vais juste vérifier la date et l'exacte situation de cette histoire des croisades, mais du coup, si Afrani mentionne ça, il est donc très contemporain de la traduction que tu mentionnes. Donc lui, il fait une référence qui est comprise parce qu'elle est, à mon avis, déjà quand même là dans une sorte de... Enfin, il y a même des récits un peu grotesques. Il y a à l'intérieur de toutes les maqamates, tout ça, il y a des figures de francs croisés, donc pas désignés comme croisés, mais de francs, qui sont dans des histoires drôles, qui sont des histoires cocasses, enfin des histoires de... Donc c'est peut-être aussi ce registre-là qui fait écho, hein, qui se réinterprète. Alors à chaque fois, quand on a un nouveau vocable qui rentre, il est à la fois complètement nouveau et en même temps il colle sur un imaginaire plus ancien, même si le mot a pris une tournure nouvelle. Donc c'est hyper intéressant. Il faudrait regarder dans le détail.
Tu as des francs dans les mille, enfin tu as des croisés entre guillemets dans les mille et une nuits.
Bien sûr.
Mais on les appelle des francs. On les appelle pas des croisés. Par contre, l'iconographie arabe contemporaine des mille et une nuits leur mettra une croix de croisée.
Voilà.
Tu as dans Baybars,
oui, bien sûr.
Et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est à quelle vitesse ce qu'on appellerait aujourd'hui le récit occidental a été adopté par les musulmans. Au point qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il faudrait qu'on fasse de la repentance pour les croisades, alors qu'en réalité, il faudrait peut-être de la repentance sur le fait que les musulmans ont adopté notre discours de l'histoire. Mais ça, c'est une autre chose. autre...
Non, mais c'est ça, je pense que dans le détail, c'est tout cette histoire de quel type de récit adopter et comment il circule. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire quoi, on peut dire ça, si on date juste si on essaie de repérer la manière dont les gens s'expriment, il apparaît quelque chose, et après, dans les productions plus au long terme, finalement, il y a une espèce de fusion qui s'opère entre une sorte d'imaginaire très ancien véhiculé par tous ces textes, et puis cette nouvelle réalité d'une science historique qui a ses canons, qui a son vocabulaire, etc., qui s'impose, enfin, plus ou moins, disons, au tournant du 19e siècle, enfin, milieu du 19e siècle.
Et puis la dimension.
C'est un des exemples, il y en a plein d'autres.
Il ne faut pas oublier qu'au départ, les Mille et Une Nuits ou la Serra de Baïba, c'est oral. Et donc c'est par l'oralité que le souvenir a été entretenu plus que par l'écrit, même si on a des manuscrits anciens de Baïbars ou des Mille et Nuits. Mais quand on pense que les Mille et Nuits en premières éditions est évidemment en France, au Collège de France, par Galland au début du XVIIIe siècle, ça, il faut quand même célébrer la maison. Et puis que Baïbars n'a toujours pas eu d'édition arabe, à ma connaissance, et que alors qu'il en existe une traduction française qui a été entreprise sous la direction de Georges Boas, là c'est aussi quelque chose de très intriguant du point de vue de l'histoire culturelle. On a des micros donc pour des questions à la salle, enfin là, voilà.
Qu'est-ce que c'est la custodie actuellement ?
C'est toujours la custodie.
Quelles actions, quelles influences dans l'histoire actuelle ?
Je réponds.
Je t'en prie.
Ouais. Alors, elles ont toujours la même vocation. Ils accueillent les pèlerins. Ils ont un hôtel pour les pèlerins. Ils publient une revue. Ils ont toujours une imprimerie. Ils ont toujours toute une série d'ateliers. C'est un lieu extrêmement important. C'est un lieu où, enfin, ils possèdent un patrimoine immobilier à Jérusalem extrêmement important. C'est un peu une ville dans la ville, hein, quand on arrive sur la porte de Jaffa, c'est à gauche tout de suite. Et disons qu'il y a les moines franciscains qui sont toujours là. Hein. L'imprimerie a été déplacée, en revanche, à l'extérieur de la ville ancienne, disons, et continue à publier toute une série de choses. Hein. Il publie entre autres le mensuel Terre Sainte, qui est publié je sais pas combien de langues, je n'ai pas en tête, mais c'est la Santa en italien, puis Terre Sainte et en anglais, puis en espagnol, etc., qui est le mensuel des pèlerins en Terre Sainte, enfin, qui raconte l'histoire de la Terre Sainte. Donc c'est vraiment une institution encore très, très, très forte. Hein,
Et elle veille sur les droits des catholiques sur les lieux saints.
Oui, bien sûr.
Au Saint-Sépulcre, là, ils ont réussi à s'entendre pour les dernières rénovations. Mais moi, j'ai le souvenir au Saint-Sépulcre d'entendre un franciscain hurler plutôt que chanter pour essayer de couvrir l'orthodoxe qui était à 30 mètres de lui dans les travées du Saint-Sépulcre. C'était celui entre l'orthodoxe et le catholique, c'est celui qui développait le plus de décibels pour marquer son territoire.
Mais l'histoire ne dit pas, comme pour les Arméniens, on raconte qu'ils les recrutent sur des critères essentiellement physiques, leurs moines, pour qu'ils puissent justement tenir le coup de poing. C'est pas le cas pour les franciscains, à ma connaissance, même si c'est quand même tous des...
Tu as eu une bagarre récemment au Saint-Sépulcre, enfin, sur le couvent copte, il y a une dizaine de jours à peu près, et la police israélienne est intervenue, parce qu'il s'agissait d'une bagarre entre coptes et égyptiens et coptes éthiopiens. Vu que les Israéliens favorisent systématiquement les Éthiopiens aux dépens des Égyptiens sur le couvent qui est adjoint au Saint-Sépulcre. En effet, pour être moine à Jérusalem, il faut être aussi un peu musclé.
Non, mais c'est clair.
Oui, vous avez le micro ?
J'ai deux questions, mais auparavant, j'ai aussi deux remarques. La première, c'est que le professeur Laurens a dit tout à l'heure, quand le sionisme arrive à Jérusalem, il amène la séparation des populations. Peut-être un peu. Vous avez dit aussi qu'il arrive en 1908, il arrive avant. Et à propos de cette séparation des populations, c'est pas mal le fait de la politique du mandat britannique. Justement, en 1908, il me semble, au moment où il y a la proclamation, ou plutôt la remise en vigueur de la constitution turque, il me semble, il y a pas mal de fraternisation interconfessionnelle. Le sionisme n'y joue d'ailleurs pas grand rôle. Donc, mais il est déjà avant.
Je vais répondre sur ce point.
Quand après, j'ai deux questions, si vous me permettrez.
Je réponds déjà sur le premier point. Quand je dis les sionistes, je parle de l'organisation sioniste. Elle n'est pas implantée en Palestine avant 1908. Ce qui avance, c'est la colonisation dite rothschildienne et le travail que les rothschildiens font avec l'Alliance israélite universelle. Mais la colonisation rothschildienne, qui dépend d'Edmond Rothschild, le baron français, celle de l'Alliance israélite universelle se fait dans un cadre levantin. Benjamin el-Husseini, le futur mufti de Jérusalem, a été élevé à l'école de l'Alliance israélite universelle de Jérusalem. Et c'est donc au moment où arrivent les émissaires des gens de la seconde alia et l'organisation sioniste qui plaident pour la séparation des populations, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas venus en Palestine pour vivre en communauté, dans une société. Ils veulent la séparation, c'est ce qu'on a appelé la question du travail juif, etc. Ils veulent, par exemple, interdire les élèves non-juifs des écoles juives de Jérusalem. C'est une des revendications. Et on a dans les textes arabes des 1915, dans cette période, après ça de la guerre ou immédiatement après la guerre, ils ont dit « ils nous ont séparés ». C'est pour ça que j'insistais sur ce point.
Alors, mes deux questions, c'était, premièrement, quid du rôle de l'imprimerie en turc dans l'Empire ottoman ? Est-ce qu'il y avait... Il n'y avait pas d'imprimerie en arabe jusque dans les milieux du 19e siècle, mais j'imagine quand même que l'imprimerie n'était pas totalement absente de l'Empire ottoman. Était-elle réservée aux Turcs et quel rôle ça a joué ? Et d'autre part, il est bien étrange, alors là je ne vois pas vraiment l'explication, que le mandat britannique est utilisé comme imprimerie nationale, une institution qui semblait quand même très, très dans les petits papiers, pas seulement catholique, qui était surtout très italianisée et demi-mussolinienne, si j'exagère peut-être, mais éclairez-moi sur ce point.
Alors oui, il y a des imprimeries en ottoman, mais à Istanbul. Après, ça diffuse. La diffusion de l'ottoman écrit, mis à part l'utilisation de l'administration, etc., est quand même très peu visible dans cette période-là, au XIXe siècle. On a idée, disons, que, à partir de ce qu'on peut voir, à partir de moi, ce que je connais mieux, c'est-à-dire justement 1908, la plupart des notables alphabétisés, etc., peuvent parler l'ottoman, peuvent éventuellement le lire dans les provinces arabes, mais c'est pas, ils lisent très peu en ottoman. Il y a un peu le journal officiel, des choses comme ça qui circulent en ottoman, mais c'est vraiment très très peu de diffusion de textes en langue ottomane. Donc parfois, en effet, pour publier, y compris en arabe, parce que les caractères sont assez similaires, on va aller publier à Istanbul. Mais ce n'est pas un centre très fort de développement. Enfin, il faut vraiment attendre l'installation des imprimeries missionnaires pour qu'on puisse développer une impression. Après, les textes circulent sous d'autres formes. Il faut toujours penser que quand on dit manuscrit, ce n'est pas les enluminures manuscrites, c'est aussi des manuscrits très, très banals, Donc les textes circulent aussi sous cette forme-là, et encore très très massivement, y compris à la période dont j'ai parlé, au milieu du XIXe siècle, il y a beaucoup encore de manuscrits. Alors, ce mystère, il n'est pas mystérieux, enfin, c'est ce que j'essayais de montrer, c'est-à-dire que d'abord, l'italianisation forte, et alors la fascisation, enfin, en tout cas la collaboration avec le fascisme, elle est visible essentiellement à partir, donc, évidemment, de 1922, mais un peu plus tard, disons. Hein. Donc, la collaboration entre les autorités mandataires anglaises, britanniques et l'impression des franciscains, elle date de la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. Et c'est tout simplement très pragmatiquement, parce que c'est le seul endroit qui est capable de faire ce dont ils ont besoin. Donc dès 1916-17, c'est là-bas qu'ils vont commander les affiches, etc., et tout le matériel nécessaire. Donc, et ça, ils ne vont pas le remettre en question avant la fin du mandat. Ça va rester tout du long, disons, l'imprimerie principale. C'est la plus grosse, c'est la plus performante, c'est celle qui a la capacité de s'adapter le plus facilement. En fait, ils ont créé au fur et à mesure de leur installation et de leur développement une sorte de... Ils sont devenus incontournables. Mais je crois qu'ils le font, hein, c'est ce que j'ai essayé de montrer, y compris cette alliance avec cette italianisation. Disons, elle s'opère sur une frange, hein, de l'imprimerie. Le travail continue, c'est business as usual, hein, tout le reste se poursuit, hein, les cartes de visite, tout ça, c'est vraiment cette institution-là, elle n'est pas tellement perturbée par le rôle politique qu'elle va jouer ou les positions qui vont être assumées par certains d'entre eux à ce moment-là. Mais elle accepte en tout cas d'être instrumentalisée aussi par le gouvernement fasciste et pour développer des choses qui finalement lui rapportent de l'argent, lui permettent d'être visible, etc.
Les premières imprimeries à Istanbul, ou Constantinople, comme vous voulez, compte tenu de l'expérience qui a échoué, enfin, qui n'a pas duré longtemps dans les années 1720, c'est les années 1790 pour les imprimeries d'État ottoman, puisque l'ambassade de France, dès 1780, a une imprimerie propre à Istanbul, mais qui publie en turc. Donc, encore une fois, le rôle des Européens dans l'impression, enfin dans la naissance de l'imprimé en monde musulman. Mais c'est vrai que, enfin bon, il faut aussi dire qu'entre l'ottoman et l'arabe, c'est dans la mesure où justement vous avez l'imprimé que les langues divergent. Quelqu'un qui était très cultivé dans le manuscrit vers 1850, il pouvait lire de l'ottoman comme il pouvait lire de l'arabe parce que les deux langues étaient relativement proches. Et elles se simplifient, elles se purifient par l'imprimé. Et qui fait qu'ensuite, l'ottoman se turquise, il devient de plus en plus du turc. Et l'arabe se débarrasse progressivement de ses tournures ottomanes. En quelque sorte. Mais si vous lisez des textes encore de 1920 en arabe, la majorité des transcriptions des mots européens se font en ottoman et pas en arabe. Donc il faut connaître de l'ottoman pour comprendre de qui on parle. D'autres questions ? Il nous reste une dizaine de minutes, si je ne m'abuse. 7 minutes, donc... Tu as des points sur lesquels tu souhaiterais revenir ?
Non, tout va bien pour moi.
Voilà, ben. Alors je vous signale pour point d'ordre, parce que ça risque de poser des complications à la rentrée. Il y a 6 séminaires cette année, jusqu'aux vacances de Noël, ou de printemps, ou d'hiver, je ne sais plus comment il faut dire politiquement. En janvier, il y aura 2 cours. Mais les cours, ce seront à l'heure du séminaire. C'est-à-dire que les cours du mois de janvier, ce ne sera pas à 15h, ce sera à 11h. Hein, ceci pour des problèmes de gestion de l'amphi, tout simplement. Faut faire attention de ne pas suivre la routine habituelle et penser qu'à 11h en janvier, ce sera le séminaire, ce ne sera que le cours, point à la ligne. Bien, je vous remercie. Pour ceux qui ont du courage tout à l'heure à 15h, on sera dans les mandats, enfin dans l'entre-deux-guerres. Tu veux venir avec nous ?